signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Le 10 mai 81, la gauche unie arrivait au pouvoir après que sa frange radicale ait accepté le leadership de la gauche modérée. Aujourd'hui, c'est le contraire. Au sein de la nouvelle Union populaire économique et sociale, ce qu'il reste de la gauche modérée s'est rangé sous la bannière radicale de Jean-Luc Mélenchon pour présenter un programme commun qui sera défendu par ses candidats à la députation le mois prochain. Pardon. Or, cette union à peine constituée, le parti même de Jean-Luc Mélenchon, c'est la France Insoumise, s'est retrouvé sur la sellette la semaine dernière, avec le retrait de l'une de ses figures montantes, Taha Bouaf, pressenti pour être candidat dans la 14e circonscription et qui a dû se retirer en raison d'accusations non prouvées d'agression sexuelle et même de viol. L'affaire déjà grave en soi a pris une ampleur aberrante quand les responsables de la France Insoumise ont donné le sentiment de soutenir publiquement Bouaf en attribuant son retrait au racisme ambiant avant de reconnaître le motif réel de son éviction une fois celui-ci révélé par les médias. L'histoire de la France insoumise de ces dernières années montre que ses dirigeants ont plusieurs fois invoqué contre des militants des accusations d'agression ou de harcèlement sexuel qui se sont dégonflées par la suite. Au-delà de ces péripéties inexplicables, donc, l'affaire pourrait bien se révéler plus complexe qu'il n'y paraît. Les dysfonctionnements et pratiques qu'elle révèle obligent en tout cas à réfléchir. Que penser du fait que la gauche se rallie ainsi à sa frange la plus radicale, au fait que la principale force aujourd'hui à gauche renoue avec un langage qui a été analysé en son temps déjà par Arthur Koestler et George Orwell. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Stéphanie Rosa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, spécialiste des Lumières et de la Révolution française. Vous avez publié en 2000 « La gauche contre les Lumières », un livre pour lequel vous étiez venu dans cette émission. Et vous publiez en ce moment « Les Lumières de la gauche », qui est un livre plus universitaire aux éditions de la Sorbonne, sur les liens qu'entretient la gauche avec ses origines dans la tradition des Lumières. Et vous donnez une importance particulière dans ce livre à ce que vous appelez les gauches radicales, parce que vous dites c'est là que l'illuminisme semble être entré dans sa crise la plus profonde. C'est là que se trouve la remise en cause contemporaine de l'héritage 18e par une partie de la gauche égalitaire, antiraciste et féministe. Et c'est ce qui vous intéresse.
Oui.
Oui, vous pouvez y aller une seconde.
Oui, alors ce deuxième livre, il est plus historique que le premier. Et il analyse les rapports entre les Lumières, la Révolution française aussi, qui est un moment très très important, fondateur, et puis la gauche jusqu'aux années 60.
Jusqu'aux années 60, où se fait selon vous la grande coupure.
Où les rapports commencent à se dégrader, on va dire, entre la gauche et les Lumières. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre-là, c'est que les principaux courants de la gauche, même les démodérés aux plus radicaux, en fait, ne se concevaient pas indépendamment de ce socle illuministe et révolutionnaire du 18e siècle.
Thomas Guénolé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, intellectuel de gauche, je crois que vous tenez à l'appellation, si j'ai bien compris.
Je la revendique, ça n'est pas une maladie honteuse.
Voilà. Vous avez publié en 2020 le livre noir de la mondialisation, et un an plus tôt, vous avez publié La chute de la maison Mélenchon, livre dans lequel vous relatez votre passage à la France insoumise et ce qui vous est arrivé. On va en parler dans une seconde. Maud Lerest, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste de l'histoire des féminismes, c'est ça.
C'est un grand mot, mais on peut dire que je suis journaliste indépendante, féministe, intersectionnelle, voilà, c'est plus proche de la réalité.
Vous avez travaillé au Média, qui est la chaîne TV qui reste proche aujourd'hui de la France Insoumise. On va parler dans un moment. Et Fatima Benomar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toujours membre de Nous Toutes ?
Oui.
Oui. Membre du Conseil national d'oser le féminisme entre 2009 et 2011. Vous avez écrit en 2013 « Féminisme, la révolution inachevée ». Et c'est par vous que je vais commencer, parce que vous avez posté sur Facebook le 15 mai un message dans lequel vous dites que l'affaire Taha Bouaf a réactivé complètement votre trauma, que vous vivez d'intenses crises de larmes, parfois en pleine réunion, au boulot, et vous rappelez le fait que vous avez été en butte à d'intenses calomnies qui n'ont jamais été publiquement démenties par les responsables de la France insoumise, qui les démentaient ou qui les démentent toujours auprès de vous en message privé. Et au point que vous avez dû contourner les cortèges entiers en manif par stratégie d'évitement pour ne pas être confronté à eux. Vous pouvez m'en dire un mot ?
Oui, en fait, j'ai adhéré au parti de gauche en 2010 et je vais militer pendant 2 ans, et notamment pendant la campagne de 2012. Et vers la dernière ligne droite de la campagne, je me rends compte du jour au lendemain, alors que j'étais non seulement une militante très active, mais à peu près élue à presque toutes les instances du parti, que des phénomènes étranges commencent à s'organiser autour de moi. Ça a commencé par quelque chose d'inattendu, même si ça peut paraître anodin, c'est d'être bloqué par le compte Facebook personnel de notre candidat pour lequel je faisais campagne chaque jour, Jean-Luc Mélenchon. Et puis, à un moment, je vais participer à un collage et on me dit « Fatima, je suis désolée, tu peux pas, ce qui est quand même l'action de base d'un militant, tu peux pas venir avec nous, mais je ne peux pas te dire pourquoi. Mmh. » Plus tard encore, on me demande d'aller au meeting de Marseille pour remplir une action militante. Le chauffeur vient me dire « Fatima, je ne peux pas te dire pourquoi, mais tu dois t'asseoir tout devant et pas à côté de tes camarades. » Et il y a eu toute une campagne de harcèlement moral inexpliqué, sans argument, alors que j'ai essayé de remuer ciel et terre en interne pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Et des années plus tard, par exemple plus d'un an plus tard, après ces choses inexpliquées et non argumentées, je vais par exemple chez une camarade communiste à Marseille. Elle reçoit un message de l'une des assistantes de Mélenchon. « Attention, ne reçois pas Fatima Ben Omar », alors que j'ai déjà quitté le parti. Hein. Mm-hmm. Je ne suis même plus dans l'idée de me battre pour essayer de comprendre ce qui se passait, de quoi j'étais peut-être accusée ou quoi que ce soit. Et elle lui dit « Fatima a été interdite d'approcher le candidat pendant toute la fin de la campagne ». J'ai essayé de toutes les manières possibles imaginables de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on me reprochait. Et ça a pris 3 ans jusqu'en 2015 où j'ai réussi à avoir assez de témoignages de tout un tas de personnes pour savoir qu'en gros, j'aurais été accusée d'avoir harcelé sexuellement Jean-Luc Mélenchon. Mmh.
Alors, il y a deux, trois éléments importants que vous développez sur votre blog que je vais donner. Vous êtes arrivée au parti de gauche par Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui vous avait contacté par un message privé sur Facebook, c'est ça, en 2010?
Oui, c'est ça.
C'est un petit détail, mais c'est quand même intéressant quand même, vu la suite. Votre mise à l'écart a commencé en mars 2012 dans un meeting de Lille, où on vous a soudainement reproché d'être monté sur scène trop poilu. En fait, vous avez compris après que c'était le fait d'avoir des bras nus qui était considéré comme indécent. Et finalement, effectivement, il y a des gens qui vous sont venus vous dire, on dit des choses terribles sur toi, à Fatima, je n'ai pas le droit de te les répéter, ce que vous citez. En septembre 2013, Jean-Luc Mélenchon vous invite à dîner. Alors, vous racontez que Jean-Luc Mélenchon vous invite à dîner et vous dit qu'en fait, il est devenu célibataire et qui vous a toujours trouvé craquante, et vous allez avoir une histoire avec lui.
Ensuite,
c'est une histoire qui va se passer en deux temps, 3 mois d'abord et puis ensuite 4 mois, pendant lesquels, particulièrement la deuxième partie, votre harcèlement va continuer. C'est-à-dire que vous allez continuer à être accusé de harceler sexuellement Jean-Luc Mélenchon pendant que vous avez une histoire avec lui, c'est complètement fou.
C'est absolument rocambolesque, effectivement. C'est-à-dire que moi, j'apprends les éléments de tout ça à chaque fois a posteriori.
Ouais.
Donc, quand Mélenchon m'invite à dîner, moi, j'ai Daniel Simonet 1 heure au téléphone en me disant « Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Peut-être qu'il va me reprocher d'avoir fait je ne sais quoi. » Elle m'a dit « Écoute, sois très factuelle, défends-toi et tout. » Et là, j'arrive et retournement de situation, il me dit « Mais je t'ai jamais rien reproché. De quoi tu parles ? Au contraire, moi, j'ai toujours été amoureux de toi. Maintenant, je suis enfin célibataire, tout ça. » Et donc, effectivement, ce qui se passe en 2015, c'est que quand j'ai bien assez d'éléments pour comprendre ce qui m'a été reproché, ce que je reconstitue année après année, voilà. J'écris à toute l'équipe de campagne. Alors, je veux bien que vous m'accusiez d'harceler sexuellement M. Mélenchon. Comment pouvez-vous alors expliquer que 1 an après cette campagne de harcèlement, c'est lui qui me demande de sortir avec lui. Et j'ai pour toute réponse Sophia Chikirou qui m'écrit « De toute façon, tu n'es qu'un objet sexuel et les objets sexuels n'ont pas de droit ».
Mmh. Oui, c'est un...
Réponse lapidaire à un long mail qui détaillait le harcèlement.
C'est un mail que vous reproduisez sur votre blog en capture d'écran. Alors, ce qui est intéressant, c'est le langage utilisé quand vous demandez des explications. On vous répond « Tu n'es pas novice en la matière, tu dois savoir que les ordres vont du haut vers le bas, qu'une hiérarchie est respectée. Si tu n'as pas eu de réponse à ta question de savoir ce qui se passe, lorsque tu as demandé d'où l'ordre venait, c'est peut-être que tu n'avais pas à le savoir. Ouais. » Et ça, c'est quelque chose qui va se répéter. Hein. D'autres vous diront benoîtement plus tard, hein, des amis, la consigne était donnée, donc une fois que la rumeur est lancée, on applique. Le service d'ordre obéit comme nous obéissions tous et toutes. Il suffit d'une consigne et le service d'ordre obéit. Je cite des tweets que vous avez échangés. J'ai pas cherché à comprendre. Du moment qu'on le disait, c'était forcément vrai. Jusqu'à ce qu'on soit des centaines... Alors après, c'est quelqu'un qui explique que d'autres personnes ont vécu ça aussi au sein de la France Insoumise.
Et alors une dernière réaction quand même, c'est Hélène Franco qui est magistrate et qui me répond « De toute façon, tu es envahi par ton moi. Quand on fait la révolution, on doit être discipliné. Donc en gros, tu dois fermer ta gueule quand tu subis ça. Tu n'as pas essayé de comprendre. »
Alors ça, c'est, enfin, on est dans un monde, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On est dans le monde des années 50, enfin, du stalinisme le plus pur, non, Stéphanie Rosa.
Je sais pas si. Alors, bien sûr, ça peut faire penser au stalinisme. Moi, je dirais que ça fait penser surtout au sectarisme.
Au sectarisme, c'est le mot que je cherchais.
Qui n'est pas, parce qu'il faut pas tout mettre sur le dos du stalinisme. Mmh. Il y a eu des comportements sectaires, malheureusement, dans plein de partis politiques et dans plein d'organisations de gauche. Mais là, il semble que effectivement, ce soit la situation à laquelle on est confronté.
Oui. Mmh. Ouais. Thomas Guénolé, quand je vous ai eu au téléphone, vous avez commencé en me disant. Je pensais que mes diplômes me protégeraient de toute dérive. Je crois que vous avez employé le mot staliniste à ce moment-là.
Dérive sectaire.
Oui, je pensais que mes diplômes, je suis un intellectuel, je pensais que tout ça me protégerait des dérives sectaires, et en fait, je me suis fait avoir comme un bleu.
Oui, c'est ça. À titre individuel, entre autres éléments qui m'ont. Vous savez, quand on traverse des épreuves, ça vous fait apprendre. C'est quand même l'une des rares bonnes nouvelles. Pour moi, l'expérience d'être compagnon de route de la Maison Mélenchon de 2017 à 2019, ça a été une vraie école d'humilité, parce qu'effectivement, j'étais assez convaincu que du haut de mon doctorat en sciences politiques, s'il y a bien quelqu'un à qui on ne pouvait pas la faire, c'était moi, et donc des dérives sectaires, moi, je vais jamais me retrouver à être embrigadé, à être à militer dans un truc qui serait une escroquerie politique et je ne m'en rendrais même pas compte, etc., etc. Ça peut arriver à d'autres, mais pas à moi, vous voyez. Mmh. Et en fait, si. Et donc, c'est très humiliant a posteriori de vous dire, je me suis fait balader par des gens qui, politiquement, me semble-t-il, sont des escrocs. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis arrivé à la Maison Mélenchon par conviction, par enthousiasme, parce que militer pour une vraie démocratie en France, je suis tout à fait d'accord avec ça. Une écologie beaucoup plus radicale que ce qui se pratique, je suis d'accord avec ça. Mettre la question sociale et la question de l'antiracisme et la question des différents combats pour les minorités vraiment au centre, moi, ça me va très bien. Mais une fois que vous êtes dedans, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, ce que j'ai découvert petit à petit, c'est une machine dictatoriale orwellienne. Alors, les mots ont un sens et je ne les emploie pas par hasard. Je dis machine dictatoriale parce que c'est un fait, la France insoumise fonctionne comme une dictature. On en a eu un aperçu tout à l'heure par témoignage, mais il y a des éléments institutionnels, j'allais dire, que je pourrais vous décrire si vous le souhaitez.
Et orwellienne. On va y venir dans une seconde.
Oui, et orwellienne parce que d'un côté, la France insoumise vous dit qu'elle se bat pour la vraie démocratie, pour la bienveillance, pour l'humanisme, pour etc., etc. Et regardez comment cette personne a été traitée par des gens qui n'ont que la fraternité à la bouche.
Oui.
Et donc, moi aussi, je l'ai vécu. Et là, on est dans un fonctionnement de type 1984. C'est-à-dire qu'on affiche certaines valeurs et on pratique en interne très exactement le contraire. C'est pour ça que je parle d'escroquerie politique et de fonctionnement orwellien.
Alors, ce qui vous est arrivé, vous aussi, vous avez été accusé de harcèlement sexuel.
Oui, sur la base de rien, d'ailleurs.
Contre quelqu'un qui n'était pas au parti, d'ailleurs, contre une étudiante.
Contre une de mes anciennes étudiantes.
Une de nos anciennes étudiantes.
Donnez-moi une minute. juste parce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne me connaissent pas ou n'ont jamais entendu parler de ça, donc je leur dis rapidement, l'étudiante en question, je ne l'ai jamais invité à prendre un café, je ne l'ai jamais invité à prendre un déjeuner, je ne l'ai jamais invité à dîner, je ne l'ai jamais rencontré en dehors du campus et je ne l'ai jamais eu au téléphone, on n'a jamais échangé de SMS et je ne lui ai jamais tenu de propos sexuels de ma vie. Mmh. Et pardon, je sais que ce n'est pas forcément très élégant de le dire, mais j'ajoute que je ne l'ai jamais désiré physiquement. Mmh. Donc à un moment donné, il faut peut-être... arrêter de faire n'importe quoi sur des accusations. Je ne connais pas les autres dossiers, mais là-dessus, ça va pas.
Fatima Benhamma.
Oui, juste, en fait, le parallèle n'est pas tout à fait pertinent, je trouve, dans nos deux dossiers, déjà parce qu'il était accusé formellement, et que moi, je me débat dans une accusation informelle. On ne m'a jamais...
Vous avez raison.
Voilà, donc de toute façon, je ne peux même pas me présenter devant une cellule. Je ne peux pas me défendre, puisque, officiellement, on ne m'accuse de rien.
Alors, moi non plus, je ne pouvais pas me défendre. On m'a refusé de venir avec mon avocat.
Attends, deuxième chose, là où je ne serais pas tout à fait d'accord, peut-être qu'on en reparlera, c'est que moi, je pense que là... on en reviendra peut-être, il y a besoin quand même de cellules d'écoute, de personnes.
Ah, mais ça, c'est un autre sujet.
Et pas forcément de choses qui sont reprochées par la loi. Je vous donne juste une petite anecdote. Il y a, la semaine dernière, il y a une jeune militante de la France Insoumise de 23 ans qui me dit qu'elle a passé, elle commence à avoir des petites responsabilités, de petites mains et tout. Elle a passé toute une soirée électorale à avoir des petites fonctions avec un fameux député de la France Insoumise qui la regarde d'un air libidineux, le même, pendant toute la soirée. Mmh. Et rien que pour ça, alors que là, enfin, on ne peut même pas porter plainte contre une chose pareille, elle m'a dit, moi, je vais commencer à reculer de mes responsabilités. Donc ça crée aussi des discriminations, ne serait-ce que des comportements à ce point pesant à l'encontre des militants.
Peut-être surtout à cause du nombre de rumeurs qui circulent, parce qu'il y a un climat très très toxique, visiblement, entre tous ces gens. Mais pour revenir à la différence entre vos deux affaires, Thomas Guénolé, une seconde, ce que vous racontez aussi, c'est là, effectivement, on sait de quoi, enfin, on vous dit de quoi vous êtes accusé, mais ce que vous racontez est intéressant parce que...
On me mentionne l'expression harcèlement sexuel, mais on ne me donne aucun fait.
Voilà.
Et ensuite, quand je me retrouve à subir un interrogatoire de trois cadres de la maison Mélenchon,
c'est ça.
Pendant une heure, sans avocat, puisque je pensais pas en avoir besoin, mais au bout de cinq minutes, je me rends compte quand même que ça prend une tournure assez étrange, et donc, vous vous retrouvez dans une situation absolument kafkaïenne dans laquelle j'ai vraiment pensé au procès de Kafka. C'est-à-dire, vous ne savez pas précisément sur le fond de quoi on vous accuse, vous ne savez pas sur quelles éventuelles preuves on se base, et vous savez, vous, qu'il ne peut pas y avoir de preuves parce que vous ne faites pas ce genre de truc.
Et ce que vous dites, c'est que c'est ça. Les trois délégués vous interrogent. Ils vous disent, en gros, ils ont dit qu'après, vous retranscrivez une conversation que vous avez avec une militante qui vous dit, en gros, ils ont dit qu'après t'avoir interrogé, à leur avis, il n'y avait pas de harcèlement sexuel. Ensuite, on a discuté très longuement pour décider s'il y avait ou non harcèlement sexuel.
Oui,
finalement, le rapport dit qu'il y a harcèlement sexuel.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un rapport interne écrit par Daniel Simonet qui concluait qu'il y avait eu un délit. Je rappelle qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand on parle de qualification pénale, parce que c'est 2 ans de prison ferme, le harcèlement sexuel. Donc, il ne faut pas jeter des accusations à la légère.
Ce qui est intéressant, c'est vous demandez pourquoi la procédure continue s'il n'y a pas de...
Parce que le rapport interne a déjà conclu que j'étais forcément coupable.
On vous dit la procédure continue parce que le pôle de vigilance dit que tu es coupable.
C'est ça. Et donc,
c'est vraiment littéralement la phrase de Kafka que vous citez dans le procès. Le jugement n'intervient pas d'un coup, c'est la procédure qui devient jugement.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes dans cette situation-là et je ne suis pas particulièrement par tempérament du genre à m'apitoyer sur mon sort, mais moi, je sors de 2 ans et demi de dépression. Mm-hmm. Sous traitement psychiatrique.
Oui.
Je me suis retrouvé à la... j'ai été pris en charge par l'unité de victimologie de l'hôpital d'Hôtel-Dieu. Mm-hmm. En fait... Quand vous êtes comme ça accusé d'un truc dont vous êtes innocent et que ça prend des proportions délirantes où il y a toute une machine en fait qui vous dit, qui vous broie quoi que vous disiez, vous vous retrouvez dans une situation, j'en tremble des mains rien que de vous en parler, c'est dingue, 3 ans après, où vous, en fait, dans votre tête, ça se passe comme si absolument n'importe quelle personne tous les jours qui vous regarde dans la rue est en train de vous accuser. Mmh. Et vous vivez ça dans votre tête pendant 2 ans et demi à peu près. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, quand on écoute les uns les autres, c'est qu'effectivement, les différentes affaires sont tout à fait différentes. Ce que je trouve intéressant, moi, à noter sur le fonctionnement de la Maison Mélenchon en tant que système, c'est que l'individu n'a aucun droit et le parti a tous les droits. Moi, c'est ça que je trouve fondamental dans tout ce que j'entends. Et même, quand vous citiez, madame, tout à l'heure, madame Franco, sur l'idée qu'il y a une discipline à avoir, l'individu doit s'effacer devant la parole du parti, y compris la parole du parti sur l'individu. Et là, on est dans dont on pensait que ça n'existait plus.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit aussi dans l'affaire Tahabouaf. Si on en croit Daniel Schneiderman dans Arrêt sur image, dans un texte qu'il a consacré à l'affaire, Tahabouaf a été reçu par Clémentine Autain et Mathilde Panot dans les jours qui ont suivi les dénonciations de deux femmes auprès de Clémentine Autain et du comité de vigilance. Et comme pour vous, Fatima Benomar, et comme pour vous, Thomas Guénolé, ni Autain ni Panot n'ont détaillé l'identité des concernés ni la nature des faits reprochés, et donc n'ont pas recueilli sa propre version. Mais je cite toujours Schneiderman, elles lui ont laissé le choix entre deux solutions, annoncer lui-même son retrait au motif des attaques racistes et politiques qu'il aurait subies, ou rédiger elle-même un communiqué explicite mentionnant les plaintes pour agression sexuelle, modèle Thomas Guénolé.
Oui, pas si moyennement.
C'est Schneiderman.
Non, mais bien sûr. Mais moi, j'ai mis 2 ans et demi à me remettre médicalement de toutes ces histoires. J'apprécie quand même moyennement qu'on me remette 100 balles dans la machine comme ça. Donc Schneiderman, là-dessus, il a perdu une occasion de se taire en ce qui me concerne, en tout cas.
Mais le détail est intéressant.
Mais là-dessus, non. Mais si vous voulez, j'ai aucun problème. Moi, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure. J'ai aucun problème avec l'existence de cellules d'écoute ou de vigilance, etc. J'ai un problème avec le fait que, en revanche. Qu'il y ait un rapport, moi je peux parler que de mon cas, je ne connais pas les autres histoires, donc je n'ai rien à dire là-dessus, c'est qu'en fait, on se croirait dans un comic, même si ce n'est pas drôle, qui s'appelle Judge Dredd, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est à la fois enquêteur, juge et exécuteur. Mmh. Et à aucun moment, on vous a juste, ne serait-ce que donné la parole. Mmh. Et ça, pour moi, c'est un problème.
Maud, le reste, vous n'avez encore rien dit, justement. au moment justement, quand l'affaire Tahabouaf a éclaté, vous êtes vu reprocher, vous, un certain nombre de choses aux médias.
Alors moi, j'ai été aux médias pendant, on va dire, 6 mois. Bon, outre les manquements au droit du travail, bon, ça, je vais pas en parler. Je devais être en CDI pour être spécialisée dans les féminismes et le genre là-bas. Je l'ai jamais été. J'ai été pigiste. Et d'ailleurs, ensuite, on m'a reproché d'être pigiste et d'ouvrir ma gueule et j'avais pas à le faire parce que j'étais pigiste. Bon, passons.
Il faut dire qu'il n'y a pas de CDI. Il y a aucune femme n'est en CDI dans ce.
Pas en journalisme, non.
Pas dans le journalisme.
Pas chez les journalistes, non. Sinon, il y en a 2. Mais voilà. 2 femmes. Pour un média qui se dit féministe et engagé pour l'égalité entre les genres, je trouve ça assez drôle. Alors. Moi, j'ai vécu un calvaire là-bas. Ça avait bien commencé. Tout le monde n'est pas acheté. Il y a encore des personnes bien là-bas. Mais bon, c'est surtout le management qui pêche, comme disait Thomas tout à l'heure, c'est des pratiques internes qui sont complètement contradictoires avec les valeurs prônées. C'est-à-dire qu'on nous broie. Et quand on est une femme, c'est encore plus difficile de s'imposer, de faire passer des sujets. D'autant plus que, comme le disait très bien notre cher rédacteur en chef, les sujets de femmes, ça ne marche pas. Bref, tout ça pour dire qu'on avait été contacté avec une collègue pour parler dans une enquête qui est sortie sur le site Arrêt sur image, pour parler du sexisme et de la misogynie systémique au sein du média. Donc, qui est indéniable aujourd'hui. Il y a des tas de femmes qui ont parlé, notamment...
Vous travaillez à Abouaf.
Ouais, vous travaillez à Abouaf. Et en fait... il y a eu un autre article qui est paru dans Le Monde il y a 2 semaines et j'ai été réinterrogée là-dessus, j'ai redit les mêmes choses. Et puis Théophile Kouamouo, qui est le rédacteur en chef de ce média, l'article est conclu sur une phrase qu'il a prononcée. Il a dit que les victimes de Tahabouaf, c'était en fait présumées de Tahabouaf, c'était instrumentalisées par les femmes qui, donc ma collègue et moi, qui dénoncions les soi-disant pratiques misogynes du média. Donc en fait, par pur opportunisme et pour faire avancer notre carrière, on se servait des violences sexuelles vécues par d'autres femmes. Ce qui est absolument dégueulasse, je le redis ici. Et donc cette affaire Tahabouaf, dans laquelle je n'ai aucun rôle, enfin je veux dire, a rejailli sur moi. Voilà, parce que ces gens fonctionnent en système, par association, par système, et qu'il y a plus aucune réflexion sur l'individu. Enfin voilà, après là je me perds, mais
alors le grand problème que posent ces comités de vigilance, alors peut-être qu'ils sont nécessaires, mais ce qu'on voit là, en tout cas dans le fond, dans ce qui s'est passé, c'est que on n'arrive à avoir aucun critère objectif. On ne sait jamais ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est le parti qui décide de qui est coupable et qui est innocent.
Alors déjà, c'est que les victimes, on ne peut pas les outer, en fait.
Oui. Donc on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On ne sait pas dans quelle mesure les accusations sont crédibles. C'est le parti qui décide de tout. Et c'est quand même et quand ça l'arrange, les accusations finissent par disparaître du champ public. Et il y a pas de suivi. C'est Stéphanie Rosa, c'est des pratiques quand même qui sont proches de il y a une captation de la narration et de ce qui est rationnel par le parti. En fait, c'est le parti qui dit ce qui est là où se trouve la raison.
Alors, on dit le parti, mais c'est pas un parti.
C'est pas un parti,
Et c'est important de le dire, parce que je trouve que le mouvement de la France insoumise, d'une certaine manière, c'est beaucoup moins démocratique qu'un parti. Mm-hmm. Pas seulement sur ses affaires, mais parce que dans un parti, il y a des congrès avec des plateformes, les militants peuvent adhérer à telle ou telle plateforme, on vote pour décider de la ligne collectivement, on désigne les représentants aux élections, on vote en fait pour par exemple au Parti communiste pour désigner Fabien Roussel, il y en a même eu plusieurs des votes. Oui. Il y a eu des votes à chaque échelon. Il y a eu un vote national, il y a eu un vote je sais plus exactement leurs différentes instances. Ça a commencé par le Conseil national donc restreint, puis ça a fini par un vote des militants eux-mêmes. Mmh. Donc je pense que c'est important de le dire parce que l'histoire de la gauche, c'est aussi de la sociologie des organisations et une histoire d'organisation. Et là, on a une minorité de gens qui sont autour du leader charismatique, donc et qui décident de tout en fait, sans que les militants aient jamais leur mot à dire. Donc ça c'est la stratégie, c'est la théorie populiste. Il y a un leader charismatique, il y a le peuple, et entre les deux il y a pas de corps intermédiaire. Donc c'est je trouve que dire le parti d'une certaine manière c'est leur faire de l'honneur parce que un parti c'est plus démocratique.
Fatima Benamar et ensuite Thomas Guenoli.
Alors moi, ce que j'ai subi, je le subis au moment où c'était sous la forme d'un parti et où j'étais élue à peu près partout, notamment au Parlement du parti. Ça ne m'a été strictement d'aucun secours. Donc, d'une part, la deuxième chose que je voudrais dire, parce que je ne voudrais pas non plus qu'on jette le discrédit en fait sur tous les parcours des victimes qui doivent bien s'exprimer quelque part.
Oui, bien sûr.
Et notamment, nous, en tant que féministes, on a souvent les bails avant tout le monde. Donc, il y a déjà des enquêtes militantes qui sont faites sur les hommes qui sont accusés. Et c'est pour ça, en 2018, il y avait une militante qui était responsable des droits des femmes à la France insoumise qui avait proposé qu'il y ait une cellule indépendante où ne siégerait aucune personne du parti, et on ne lui a pas accordé cela. Et donc, il y avait notamment Daniel Simonet et Sarah Legrain qui siégeaient dans la cellule, ce qui fait que les militantes avaient peur de se tourner vers cette cellule parce qu'elles avaient peur que leur témoignage et leur récit soient court-circuités. Et d'ailleurs, récemment, ce qui s'est passé avec l'affaire Tahabouafs, et c'est pour ça que ça aboutit, les victimes se sont tournées vers cette militante qui leur a dit, écoutez, saisissez la cellule, mais écrivez en parallèle à Caroline Dehas, à Sandrine Rousseau et à Clémentine Autain. Parce que ce sont des personnes qui sont plus ou moins extérieures au parti, mais surtout, il y en a qui sont récemment arrivées dans la galaxie, on va dire insoumise, NUPES, etc. Sandrine Rousseau et Caroline Dehas. Et donc, elles ne vont pas être empêchées, ou elles n'auront beaucoup moins le réflexe d'entraver vos témoignages. Et donc, c'est parce qu'il y a eu cela qu'il y a eu une prise au sérieux, on va dire, de leurs paroles.
Mais alors, ça n'explique pas le tweet étrange de Clémentine Autain le lendemain de la révélation des faits, que Tahabouaf ait démissionné, Clémentine Autain le soutient publiquement avant de s'en mêler les pinceaux quand l'affaire va être révélée.
D'ailleurs, Sandrine Rousseau et Caroline Dehas n'ont pas fait une telle imprudence. C'est-à-dire que je pense Clémentine Autain étant depuis assez longtemps dans ce corps, qu'elle a, elle a été un peu plus corruptible, je trouve, sur ce coup-là, que les deux autres qui n'ont pas été faire ce tweet de soutien dans la première risque, c'était de détourner de nouvelles victimes éventuelles de Tahabouaf, ce qui dirait, bon, alors si tout le parti est en train de s'exprimer de cette façon, je ne vais pas aller me risquer à leur adresser mon propre témoignage.
Alors, Thomas Guenoli, sur le fonctionnement du parti et sur la sociologie du parti, vous dites quelque chose d'intéressant dans votre livre, que j'ignorais comme tout le monde, je crois, c'est que la France insoumise, vous dites, n'a pas d'adhérents.
Oui.
C'est en fait la France insoumise, comme tous les grands partis politiques de France, est une association loi de 1901. Ouais. Mais sa particularité par rapport à n'importe quel autre grand parti politique, c'est qu'elle n'a jamais enregistré d'adhérents. Et donc par conséquent, il n'y a pas d'adhérents à la France insoumise à l'heure où on parle. Et donc, si demain, vous, militants, vous avez un problème avec la France insoumise et que vous voulez faire valoir vos droits, ce qui se passe dans n'importe quel assaut, on lit les statuts et puis on voit ce qu'on peut faire. Vous ne pouvez rien faire, vous n'êtes pas adhérent. Et si demain, c'est tellement grave que vous avez un litige et que vous voulez aller en justice, la première chose qu'on va vous objecter, c'est vous n'avez pas d'intérêt à agir puisque vous n'êtes même pas adhérent de cette association.
Mais pourquoi? Enfin, il n'y a aucune procédure d'adhésion?
Mais c'est simple, il suffit de ne pas enregistrer d'adhésion. Jamais. Et ça a un autre avantage, c'est que les membres du bureau, il y a 3 membres du bureau, hein, Bompard, Schneckenburger et Oprandi. Les 3 membres du bureau sont nommés dans les statuts. Et comme il n'y a jamais eu d'enregistrement d'adhérents, il n'y a pas de congrès non plus, et donc ils sont en place depuis la création de la France Insoumise. Avouez que c'est quand même pratique. Et donc, ça fait de la France Insoumise, objectivement, du point de vue du fonctionnement de l'association de la 1901, le parti le plus dictatorial de France. Mmh. J'ajoute, pour que les gens se rendent compte, parce que je voudrais pas qu'on donne l'impression de dire des choses à l'emporte-pièce. C'est purement factuel, le fonctionnement dictatorial. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été élu dirigeant de la France Insoumise, il s'est autoproclamé. Il n'a jamais été désigné candidat de la France Insoumise à la présidentielle par un vote pour départager plusieurs candidats. Il s'est autoproclamé. Aucun cadre responsable de la France Insoumise n'a été élu à ces postes-là à la France Insoumise. Ils ont tous été nommés. Et Clémentine Autain, dont on parlait tout à l'heure, quand Adrien Quatennens a été nommé coordinateur national de la France Insoumise, elle a déclaré publiquement « Je ne sais pas ni quand il a été nommé, ni où, ni par qui ». Les cadres de la France Insoumise n'ont aucun compte à rendre devant un parlement interne élu, comme ça se passe dans la plupart des partis politiques. Vous allez rire, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et pendant la campagne, ils ont créé un truc qu'ils ont appelé le Parlement de l'Union Populaire. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vois venir un truc, mais ils n'ont quand même pas osé. Et j'ai vérifié si ils ont appelé ça un Parlement dont tous les membres sont nommés. Donc je comprends pas ce qu'Émeric Caron, que je sais être sincèrement démocrate, est allé fiche dans cette galère en acceptant d'être nommé dans un parlement d'un machin qui par ailleurs fonctionne de manière antidémocratique. Je comprends pas ce qu'il fait. Mais comme moi-même j'ai vécu l'aveuglement dans l'embrigadement sectaire, parce que le combat est juste, parce qu'on adhère au combat.
Ah, ça, il faut.
La lumière de la cause. C'est un truc fréquent.
C'est une allégeance à la structure. C'est pas dans le journalisme de gauche. C'est certains journalismes de gauche, on va dire que j'ai pu côtoyer. On est tellement aveuglé par ça et on veut tellement faire avancer ça se voit pas à la radio combat, que on en arrive à se dire que certains sujets sont pas forcément importants, qu'on va pouvoir avancer quoi. Et je dis pas que la gauche est pire que la droite. Je dis juste que peut-être que on passe des choses un peu plus sous silence. Je sais pas. C'est une hypothèse que
dans l'interview que vous avez donné. J'ai pas retrouvé le nom du.
C'est Diaz, une très bonne revue en ligne contre les discriminations que je vous invite à.
Vous parlez de ça assez bien. Vous dites que j'ai l'impression que dans beaucoup de médias de droite, il est plus simple d'obtenir sa feuille de paie ou de voir ses horaires de travail respectés. Dans les médias de gauche, il y a l'idée qu'on doit tout à la structure, qu'au-delà même du journalisme, on est là pour un grand projet et donc pour forcer un peu le trait. Que ce n'est pas très grave si on ne reçoit pas de paye ce mois-ci.
Ouais. C'était un trait d'humour que je faisais, qui ne se voit pas forcément à l'écrit, mais ce que je constate avec mes camarades journalistes précaires, c'est que il y en a pas mal, en fait, qui se font complètement trasher par les gens dans nos luttes parce qu'ils ont travaillé pour des médias de droite. Il faut savoir qu'au Figaro, il y a plein de gens de gauche. Hein. Les gens veulent manger. Moi, pour avoir quasiment tout le temps, travaillé dans des médias de gauche, j'ai réalisé que typiquement le droit du travail aux médias c'est que dalle quoi. Et quand on se plaint en fait, on nous répond pas, on nous ghost, on ne répond pas à nos messages. Et au final on peut pas dire grand chose parce que si on s'élève contre ça, c'est comme si on faisait le jeu du camp adverse en fait. On est piégé parce que nous aussi on se remet en question. Mais est-ce que je serais pas en train de devenir de droite moi quelque part si je remets en cause ces pratiques là
Moi j'ai des copains qui commencent à me faire la blague depuis quelques mois. Alors Thomas, on devient de droite, pourquoi? Parce que je parle du fait que c'est extrêmement grave que la gauche française ait basculé sous l'hégémonie de la gauche autoritaire. Parce que c'est ça, c'est la tradition de gauche autoritaire.
C'est
ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que
c'est justement la question que je voudrais poser à Stéphanie Rosa. Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'on peut émettre des hypothèses sur ce retour soudain d'une gauche autoritaire qui prend la tête de l'ensemble de la gauche?
Alors, comment dire, je pense, il y a une part de Il y a une part de, enfin, c'est la, enfin, comment dire, c'est les personnes, enfin, je veux dire, il y a une part un peu, enfin, conjoncturelle, j'ai envie de dire.
Mais d'une manière. C'est un moment historique.
Enfin, d'une manière plus générale, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, enfin, la gauche, c'est pas la première fois, en fait, que ces choses arrivent.
Certes.
C'est ce qui choque le plus, c'est le double standard. C'est-à-dire, d'un côté, on affirme de grands principes, et même on fait la leçon à tout le monde, parce que c'est ça le problème, c'est quand et que la gauche par rapport à la droite, elle est plus dans comment dire la défense de grands principes, etc. Et quand la réalité des pratiques n'est pas en adéquation avec les principes, ça produit un effet désastreux, parce que à un moment ou à un autre, le double standard se voit, apparaît, et c'est démobilisateur. Et donc moi, c'est ça qui m'inquiète en fait. C'est que sur la question du féminisme, sur la question de l'antiracisme, parce que l'affaire Tahabouaf, moi, ce que je trouve peut-être le plus gênant, le plus choquant, c'est est-ce qu'on va se mettre à traiter les gens de manière diamétralement opposée en fonction de la couleur de leur peau? Est-ce qu'on va appliquer les principes à géométrie variable en fonction de la couleur de la peau des gens? Et bien sûr, sur le terrain du féminisme aussi, est-ce que c'est tenable d'affirmer de grands principes féministes et d'avoir un fonctionnement en interne qui ne correspond pas à ce qu'on affirme par ailleurs? Donc c'est pas nouveau, mais c'est inquiétant.
Mais sur les grands principes, vous dites dans votre livre que la philosophie des Lumières, qui est à la, dont normalement, enfin pendant très longtemps en tout cas, la gauche s'inspire d'une manière, même d'une manière dialectique ou conflictuelle, vous dites c'est éclairer à un sens bien précis, lutter contre les préjugés et exercer la critique. Et c'est ce dernier point qui est, que je trouve intéressant. Est-ce qu'on peut exercer la critique quand on lutte pour la bonne cause?
Je pense qu'il faut, d'une certaine manière, il y a peut-être des principes d'hygiène politique qui voudraient que la première des probités, c'est d'appliquer ses propres principes à soi-même et de se dire que, parce que justement cette idée d'affaiblir la cause, moi je pense que il faut se défaire de cette illusion. C'est le contraire, c'est en cachant la poussière sous le tapis qu'au bout du compte on dessert la gauche. Pour moi, même s'il y a des difficultés en interne, il vaut mieux les régler de la manière, y compris si ça fait un scandale, que les gens vous le reprochent, mais il vaut mieux régler le problème et en l'occurrence porter en justice et pousser les victimes à porter en justice des problèmes, des accusations, qu'elles soient vérifiées ou pas, c'est la justice qui le dira, parce que la poussière sous le tapis, ça a toujours desservi la gauche, en fait.
Mais vous savez ce qu'on vous répond, c'est-à-dire ce qu'on a tellement entendu au moment des présidentielles à propos de Mélenchon, il faut être efficace.
C'est la définition de l'efficacité des dictateurs. Je vous arrête là-dessus parce que c'est un argument que j'entends souvent et je voudrais juste, pour les gens qui seraient éventuellement d'accord avec ça et qui nous écouteraient, dire il faut pas qu'il y ait de vote, il faut pas qu'il y ait de délibération, il faut pas qu'il y ait de procédure de démocratie interne parce que on perd du temps, il faut être efficace. C'est très exactement l'argumentation des dictatures. Et donc, le piège dans cette argumentation, c'est que la définition implicite de l'efficacité, c'est que la dictature est efficace et que la démocratie ne le serait pas. Ce raisonnement est dictatorial en soi. Et ce qui me stupéfie juste très brièvement, c'est que presque tous les intellectuels de gauche en France, à l'heure où je vous parle, se taisent sur ce problème du basculement de la gauche française sous l'hégémonie d'une gauche autoritaire. Ouais. Alors qu'au XXe siècle, ça s'est toujours mal fini. C'est ça qui me stupéfie.
Fatima Benhamma.
Oui, juste en parlant de poussière sous le tapis, je pense qu'on peut pas faire abstraction de ce qu'a mis en exergue typiquement le dernier rebondissement du discours féministe avec MeToo. C'est-à-dire que cette injonction à porter plainte se percute à la réalité du système judiciaire. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. J'accompagne une victime de viol au commissariat du 18e arrondissement. Il faut imaginer une petite jeune fille toute timide. Oui, et tout. La première personne qui nous reçoit nous dit, c'est pourquoi, à voix haute, à l'entrée du commissariat. Donc Valentine lui dit, c'est pour viol. Elle dit, ça s'est passé quand? Elle lui répond, il y a une semaine. Elle lui dit, c'est bon, madame, pourquoi vous avez attendu une semaine? Rentrez chez vous. Heureusement qu'il y a une associative à côté d'elle qui lui dit, heureusement que les délais de prescription ne sont pas d'une semaine, donc vous allez la recevoir. La deuxième personne qui nous reçoit est un peu plus gentille, mais elle dit à Valentine, écoutez, ça ne servira, enfin, il y aura sans doute pas de condamnation. Donc, ne sacrifiez pas vos études, parce qu'il s'agissait d'un étudiant. Continuez à aller à l'école. Ne foutez pas en l'air votre vie pour cette histoire. Et alors, Pompon sur la Garonne, la troisième personne à qui on a affaire, c'est parce qu'elle accepte la confrontation. Donc, le policier essaie, entre guillemets, de les rabibocher. Et à un moment, il sort faire des photocopies et il laisse dans la salle de confrontation la victime avec son l'accusé. À un moment, Valentine est censée faire un certificat médical, enfin. Elle y va, elle m'envoie des SMS déchirants, Fatima. L'infirmière est super méchante. Je suis en train de souffrir pendant qu'elle me fait elle m'enfonce la seringue. J'ai l'impression que je suis en train d'être violée une seconde fois, d'être agressée dans mon corps. Pourquoi je suis allée porter plainte? Qu'est-ce que je suis allée faire dans toute cette galère? Et je vous parlais même pas, finalement, limite, heureusement pour elle, ça s'est arrêté là, parce que ça a été rapidement classé sans suite. Et elle n'a pas eu affaire, en plus, aux questions musclées, pour voir si elle ment, aux arguments de la défense, etc.
Vous portiez quoi ce jour-là?
Et d'ailleurs, ces SMS, je ne les avais pas gardés, mais je les avais transférés à Julien Bayou, je me souviens. Et donc, il faut bien se dire que nous, les féministes, quand on accompagne des victimes, en leur prévenant qu'elles ont 9 chances sur 10, selon les statistiques, qu'elles offrent comme un cadeau à leur violeur, en plus, leur blanchiment officiel, parce qu'un juge va dire, écoutez, on ne peut pas prouver le viol, rentrez chez vous. Rien que ça devrait écarter cette espèce d'habitude qu'on a à répondre, elles n'ont qu'à porter plainte.
Non, mais
c'est tellement honteux ce qui se passe en justice qu'on ne peut jamais avancer.
Non, mais c'est pour ça que des histoires comme celles qui se passent aujourd'hui, un peu le fonctionnement d'une structure comme la France Insoumise pose un vrai problème, parce que
et puis je voulais peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Fatima, c'est que même quand le mec est condamné, on ne croit toujours pas. C'est ce qu'on a vu avec Jérôme Perra. Enfin, ouais. Quand on voit les propos de Stanislas Guérini, bon, alors c'était pas du viol en l'occurrence, c'était seulement des coups. Mais on en arrive à le mec est quand même condamné. Sa nana avait eu 14 jours d'ITT et il le. On ne croit toujours pas en fait.
Mais c'est-à-dire que on se retrouve, les femmes se retrouvent coincées entre cette incrédulité et cette brutalité là, et puis en l'occurrence des structures comme la France Insoumise qui monopolisent un discours féministe en l'occurrence. Pour agir, pour tout censurer, pour agir politiquement.
Sauf que moi, j'ai même pas eu droit à une cellule. Hein.
Oui, vous n'avez pas eu droit à une cellule.
Moi, quand je leur parle, ils me disent, mais effectivement, on n'a rien à te reprocher, de quoi tu parles. Enfin, le nom de mon témoignage, il s'appelle « Tu as fait quelque chose de très grave, mais je ne peux pas te dire quoi ». Et vous pourrez trouver le déroulé de tout ce que je dénonce.
Pour finir très très vite d'une phrase, Stéphanie Rosa, vous pensez qu'on peut retrouver une gauche ouverte et plus libre bientôt?
C'est une bonne question. Je sais pas. Je pense que d'une manière générale, on est quand même rentré dans une période de crise climatique, de crise économique, problème de pénurie d'alimentation, etc. Et je pense que cette situation nous interpelle tous et qu'il est possible, qu'il y ait un sursaut. Mais pour moi, il viendra des mobilisations qui viendront de la population elle-même et peut-être alors que ça régénérera la gauche. You'll break all your fences down, trample all into the ground. You'll call your baby. She will call you a honey.
C'était Signe des Temps. Merci à tous les quatre. Merci à Fatima Benoma. Merci à Maud Lereste. Merci à Stéphanie Rosa. Et merci à Thomas Guinolé. Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Dali Yaha et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Where the wind